Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de « Incassable » de Mélanie Arlot, lu par Eva Maxwell et Julien Buys. Chapitre 1. Sylvia. Avec le recul, j'aurais peut-être dû m'arrêter au quatrième mimosa lors du déjeuner avec le Père Noël. Bon, peut-être aussi au cinquième. Ouais, même au huitième, ça aurait été bien. Mais franchement, ils étaient incroyablement bons et ces traîtres étaient très forts. À vrai dire, je suis presque certaine que les barmanes augmentaient les doses d'alcool au fil de la matinée. Et j'en ai besoin. C'est la première fois que Brett, mon ex-mari, cette foutue Kimi, sa future épouse, et moi nous retrouvons tous dans la même pièce. Ils sont assis à une table avec Whitney, notre fille qui vient d'avoir 13 ans, et Keaton, notre fils de 10 ans, en compagnie d'une autre famille du Country Club. Quand on a réservé en août dernier, j'imaginais que ce serait moi la place qu'occupe aujourd'hui Kimi. Bien sûr, à l'époque, je ne savais pas encore que Brett avait déjà engagé un avocat spécialisé dans les divorces, qu'il avait pris résidence au Nevada pour accélérer les démarches et qu'il avait acheté un nid d'amour pour lui et sa petite aventure. Je suis venue à ce petit déjeuner uniquement parce que ma fille m'a supplié de venir. Elle ne supporte pas Kimi et en veut terriblement à son père. J'évite de dire du mal de lui devant les enfants, mais je n'ai probablement même pas besoin de le faire. Il n'a jamais été un modèle paternel. À ses yeux, payer les frais de scolarité privée, offrir des cadeaux d'anniversaire hors de prix et organiser des vacances luxueuses suffit à faire de lui un bon père. Il ne passe jamais vraiment de temps avec eux et met toujours ça sur le dos de son boulot. Ces dernières années, j'étais déjà presque une mère célibataire, et quand il est parti pour de bon, les enfants ont été très clairs. Ils veulent rester avec moi. Ils tolèrent les week-ends avec leur père quand il ne les annule pas, mais il n'a jamais été question d'une autre option. Et quand j'ai évoqué l'idée de déménager à Cloverleaf Farms, là où j'ai grandi, dans le nord du Michigan, un endroit qu'ils connaissent bien pour y avoir passé plusieurs étés, ils ont voté oui, sans hésiter. Ils sont peut-être jeunes, mais ils ont compris que j'ai besoin de partir d'ici pour recoller les morceaux de ma vie. Chaque nuit, je me demande si je ne suis pas égoïste en les éloignant de la seule maison qu'ils ont jamais connue. Et puis, je repense à l'idée de croiser Brett et Kimi partout en ville, de passer devant ce qui aurait dû être ma maison de rêve avec le panneau « à vendre » planté devant, ou de supporter la pitié de ces gens qui faisaient semblant d'être mes amis, mais qui m'ont complètement abandonnée quand j'en avais le plus besoin. Je veux être entourée de ma famille, de gens en qui j'ai confiance, dans un endroit qui me ressemble. J'ai besoin d'un refuge, et les enfants aussi. Depuis que Brett est parti, Whitney met de plus en plus de maquillage. Je ne sais pas si c'est juste une ado de 13 ans qui teste des trucs ou si c'est plus profond, mais ça m'inquiète. Quand j'essaie d'en parler avec elle, elle me dit simplement qu'elle adore ça. Brett, évidemment, déteste ça. Peut-être qu'elle veut juste lui dire « va te faire foutre » avec ses lèvres rouges vifs. Une partie de moi l'admire pour ça. Est-ce que je dois vraiment lui enlever ce moyen d'expression ? Keaton, lui, mange ses émotions. Il a tout le temps faim, et même si je ne garde pas de cochonneries à la maison, il arrive toujours à s'en procurer quelque part. Dernièrement, il a commencé à les cacher. J'ai trouvé une pile d'emballages de barres chocolatées sous son oreiller la semaine dernière, et encore plus dans ses tiroirs de bureau. Quand je lui ai demandé, il a accusé un copain, et je n'ai pas eu le cœur de le confronter. Je prie chaque nuit pour que Cloverleaf Farms nous aide à guérir, ou au moins qu'il m'aide à devenir une meilleure mère.